France Musique.
Bon week-end, cher Nicolas Lafitte, et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Ce matin encore, Fabrication Maison pousse la porte des coulisses de la maison de la radio pour vous faire découvrir au plus près la musique qui s'y joue. Ce matin, dans le portrait, nous rencontrerons Agathe Bioulès, qui dirige la pédagogie à la maîtrise de Radio France sur le site de Bondy. Dans le reportage, nous retrouverons le pupitre des violoncelles de l'Orchestre National de France, qui a récemment participé à un disque, à l'invitation d'Anne Gastinel. Puis à 8h20, la chronique de la Maison Ronde de Marie Fauché nous emmènera en vacances. À 8h30, ce seront les archives de Jean-Yves Patte. À 8h45, vos souvenirs musicaux dans Parlez-moi de musique. Et enfin, à 8h50, Question de cœur avec Sophie Janin. Allez, on tend l'oreille.
France Musique.
Bonjour Agathe Bioulès.
Bonjour.
Merci d'être venue nous rejoindre ce matin pour évoquer vos choix musicaux, vos plaisirs en musique, mais peut-être aussi de temps en temps, ici et là, la pédagogie peut être un peu particulière, très impliquée, que nécessite l'ouverture d'un site comme celui de Bondy, dans lequel vous travaillez depuis.
Ça fait 3 ans, ou peut-être 4 ans maintenant, je ne sais plus.
Le temps passe vite.
Voilà, donc Sophie Janin m'avait demandé de revenir, parce que j'avais fait un petit passage à la radio il y a longtemps maintenant, justement pour la création de ce site, aux côtés de Tony Ramone. Donc j'étais très heureuse d'y retourner, de retrouver des enfants que j'avais connus tout petits, puisqu'au moment de leur recrutement, j'étais encore là, que j'ai retrouvés, jeunes adolescents, toujours impliqués dans la musique. Donc c'était un vrai bonheur. C'est un projet très ambitieux. A priori, les objectifs sont les mêmes que celui de Paris, qui est un site historique, je peux dire.
Oui, commence à avoir quelques années.
Voilà, mais donc un site nouveau qui a obligé tout le monde, les enseignants, les gens qui encadrent et la radio elle-même, à réfléchir sur les problématiques spécifiques d'un site comme celui-là, puisque les différences sont originelles, je dirais. Les élèves de La Fontaine se présentent, quel que soit leur âge, à partir du moment où ils sont en CM1, ils peuvent intégrer la maîtrise à tout moment. Et ils l'intègrent bien souvent parce qu'ils font déjà de la musique et qu'ils ont en eux une passion et qu'ils ont envie de la réaliser plus encore dans un cadre comme celui-là. À Bondy, c'est très différent. Nous recrutons les enfants tout petits à l'issue du CP et sur l'ensemble des enfants du territoire nord de la ville. L'enjeu, et c'est pour ça que la pédagogie est importante, c'est de faire naître le désir de musique. Ils sont tout petits, on va faire les auditions là à la rentrée au début mars. Ils nous chantent une chanson très joliment et quand on leur dit « As-tu envie de faire de la musique ?», ils ont tous très envie de faire de la musique. Mais cette envie, elle doit s'éprouver au fil de l'apprentissage.
Donc on fait naître un petit peu le goût de chanter en fait.
Voilà, il faut faire naître et c'est tout l'enjeu de l'équipe pédagogique.
Ça tombe bien, la première musique que vous avez choisie, c'est le chant des oiseaux. Je trouve que ça colle bien.
Thank you.
C'est l'ensemble Assai Voci que dirige Bernard Fabre-Garus qui dirigeait cette chanson maintenant connue, Le Chant des Oiseaux de Clément Jeannequin, qui est votre premier choix, Agathe Bioulès. Pourquoi ?
Alors, c'est mon premier choix parce que c'est un de mes premiers souvenirs de musique quand j'étais enfant. Ma famille fait de la musique beaucoup
En amateur, mais des bons amateurs, c'est ça ?
De bons amateurs. Ouais. Ma mère était prof de musique au collège et lycée. Et mon grand-père, surtout, était maître de chapelle. Il a exercé cette fonction qui n'existe quasiment plus, peut-être. Et il avait un chœur qui répétait chez moi, enfin, chez mes parents, dans le grand salon. Ma chambre était juste à côté. Et il avait un grand chœur, il faisait de l'oratorio, tout ça, et un chœur, un petit ensemble vocal où il faisait cette musique-là. Et pour moi, c'était un bonheur. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et quand je les entendais répéter, voilà, au moins ils étaient là. Mes parents sortaient beaucoup, alors c'était leur présence rassurante, et puis surtout le délice d'entendre se construire cette petite et grande musique, parce que pour l'avoir faite plus tard, elle est très complexe.
Elle est très complexe, oui.
Voilà. Et puis, moi, j'entendais ces chants des oiseaux, voilà, ça ouvrait une part de rêverie absolument immense. C'est d'ailleurs souvent l'effet que me fait la musique, permettre une rêverie, oui, très mystérieuse, très profonde.
C'est ça que vous transmettez, que vous avez envie de transmettre aux enfants, cette espèce de poésie quand même de cette musique mystérieuse, comme vous dites.
Oui, je pense qu'aux enfants, c'est important de leur parler de ses propres émotions, au fond. Parce que si je questionne ma propre expérience, donc j'ai fait de la musique, vous le comprenez, toute petite. J'ai eu la chance de chanter avec mes parents et puis après avec mon grand-père, assez jeune, dans son chœur. J'avais 12 ans, je crois. Au fond, c'est un cheminement qui se fait, je pense, sur toute la durée. Et les adultes pensent que peut-être, petit, on accède aux mêmes choses que l'on sent, nous, aujourd'hui. Mais je ne crois pas du tout. Je crois que la musique, ça permet cette espèce de décrochage à l'intérieur de soi. Ça ouvre l'imagination, quoi. Et c'est ça c'est de ça dont on se rappelle, en réalité. L'immense liberté imaginaire qu'on a pu trouver petit.
sous les doigts de la pianiste Célimène Daudet, ce choral de Bach, Ich rufe zu dir, Jesus Christ, dans la transcription de Busoni. Vous me disiez, Agathe Bulès, c'est romantique. C'est oui, Busoni qui met une petite touche de romantisme.
Absolument.
Sur le...
Oui. C'est immensément poétique, à mon avis. Et ça aussi, alors évidemment, avec ces extraits musicaux que j'ai choisis, j'ai pensé à ce qui pouvait parler de moi et de mon expérience. Et pour revenir à la vie familiale, traîner sur le piano, traîne encore sur le piano depuis des dizaines d'années, des chorales de Bach qui sont transcrits pour piano à quatre mains. Donc les chorales pour orgue, comme on vient d'entendre, transcrits à quatre mains dans des vieilles éditions qui ne doivent plus exister, j'imagine, et sur lequel, petite, on s'est entraîné au déchiffrage avec ma mère, puis entre nous, et maintenant je suis très émue de voir que mon fils, mon neveu, pareil, c'est les vacances de Noël, tout le monde traîne dans cette maison, on ne sait pas trop quoi faire, on va au piano et tiens, on déchiffre. C'est très lié à cette pratique de la musique quotidienne, intime, familiale, qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'a formée en réalité. Mmh. Plus que le conservatoire, je dois dire.
Oui, c'est la dimension aussi peut-être un peu humaine.
Absolument. Oui. Et puis surtout, cette musique, on ne la sacralise pas du tout. Elle nous accompagne, on la joue, des fois fort mal, mais ce n'est pas grave puisque la beauté de la musique est au-delà de notre interprétation. Elle est, comment dire, je suis sûre que le cerveau compense. On joue mal quelque chose, mais on sait que c'est beau.
Oui.
Voilà.
C'est très juste.
On essaye de bien le jouer quand même.
On s'y emploie. Votre choix suivant, c'est Un soir de neige, Francis Poulenc. Qu'est-ce que c'est beau? C'est déjà une très belle interprétation de Netherlands Chamber Choir que dirige Eric Erickson, le grand Manitou de la musique chorale en Europe, on peut le dire. Et c'était donc De grandes cuillères de neige, le premier texte d'Un soir de neige de Francis Poulenc. Agathe Bulès, la pratique chorale, c'est quand même devenu rapidement votre raison, peut-être pas de vivre, mais de travailler.
Oui, j'en ai fait beaucoup, donc comme je disais, je chantais petite, et puis après, quand j'avais 20 ans, j'ai créé mon petit ensemble amateur, et puis j'ai chanté moi-même. Ma plus belle expérience a été dans les Cris de Paris, au début des Cris de Paris, avant que l'ensemble soit professionnel, avec Geoffroy Jourdain, ma petite et humble pratique personnelle. Et cette œuvre, elle, je la trouve très belle. J'aime beaucoup Poulenc, mais surtout, j'aime beaucoup ce texte d'Éluard qui est absolument bouleversant, obscur, énigmatique. Et je trouve que là, on est vraiment dans un exemple parfait où la musique révèle le sens du texte. Et il me semble entendre ça, de grandes cuillères de neige ramassent nos pieds glacés. Quand je l'entends en musique par Poulenc, c'est comme si j'avais l'intuition de ce que c'était. Je ne saurais pas vous en faire une explication de texte. Mais en tout cas, la musique, vous voyez, la musique vient révéler le sens et la poésie absolument bouleversante. Hein. Il faut savoir, c'est écrit dans les années de guerre, etc. C'est vraiment un très, très beau moment pour moi de rencontre entre poésie et musique.
Eric Erickson, Agathe Bulès, ça a été un grand nom de la pratique chorale en France, parce que c'est vrai qu'il y a quoi, une vingtaine d'années, on était moins sensible peut-être au développement de la pratique chorale en France, alors qu'on savait que nos voisins allemands, nordiques, anglais chantaient à tue-tête matin, midi et soir.
Oui, il y a eu un grand complexe des Français par rapport à ça. Il y a énormément de chœurs en France. J'ai travaillé par le passé au sein du Centre d'art polyphonique, l'Ariam Île-de-France, puis la Mission Voix. Donc on était très au courant de la vitalité de cette pratique. On déplorait, mais ça c'était l'organisation de la pédagogie musicale, que les chefs de chœur ne soient issus que du milieu amateur et pas des conservatoires. Il y avait peu de classes de direction à l'époque, elles existaient très peu. Maintenant il y en a beaucoup.
Oui.
Eric Erickson était un modèle de pédagogie, de transmission. Il a fait beaucoup pour ça. Et ça nous a permis, par le passé, de former énormément de chefs de chœur pour justement que la pratique soit plus professionnelle, mieux encadrée. Après, l'essentiel, c'est la pratique.
C'est que les gens chantent.
Voilà, c'est que les gens chantent.
Votre choix suivant, Agathe Bulès, c'est une œuvre de quelqu'un qu'on a tous beaucoup aimé, c'est Maurice Ohana. Magnifique musique de Maurice Ohana sur un texte de Louise Labbé, Aux beaux yeux bruns. Et c'est l'ensemble Musica 13 que dirige Roland Erabédian qui en était l'interprète. Agathe Bulès, cette musique est aussi liée à votre activité au sein de ces institutions qui ont travaillé pour la pratique chorale, vocale.
Voilà, absolument. Ça fait le lien aussi avec Jeanne-Quin, puisque oui. On est sur un texte de Louise Labbé, et donc ça évoque la période de la Renaissance. Ohana, j'ai découvert grâce à Roland Erabédian, qu'on avait invité dans le cadre des activités dont je parlais au sein du Centre d'art polyphonique et de la mission Voix de l'Ariam Île-de-France. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. J'avais fait très peu de musique contemporaine dans toute ma formation, y compris à l'université.
Mais on en fait peu en général, voilà. Malheureusement.
Roland Erabédian, grand défenseur de la musique d'Ohana, qu'il a bien connue et je crois beaucoup aimée comme personne, nous a à la fois fait découvrir cet être sans doute un peu rebelle et un peu à l'écart de l'institution, qui fait que sans doute, quand par exemple Messiaen crée le Saint-François d'Assise, j'étais étudiante, je m'y précipite, et à peu près la même année, je crois, la Célestine d'Ohana est créée, et j'avais jamais entendu parler d'Ohana. Donc oui, c'est une vraie découverte. Ohana écrit de la musique vocale et instrumentale, enfin vraiment dans tous les domaines. Mais avec Erabédian, on a pu travailler, y compris avec les amateurs, sa musique, qui est une musique difficile, exigeante, très ambitieuse, mais néanmoins accessible. Enfin, nous y sommes arrivés. D'ailleurs, on avait fait Dies Solis Lux Noctis à la radio, il y a quelques années, où mon chœur participait, aussi la maîtrise de Radio France, et puis plein de chœurs amateurs associés, le chœur de Radio France, que c'était une immense œuvre vocale. Et tout le monde, les chanteurs de mon ensemble, disaient que c'était leur plus beau souvenir de musique.
Ben, c'est important peut-être en tant qu'interprète, Agathe Bulès, de rentrer dans une œuvre et de la découvrir par l'intérieur.
Absolument.
Tout à coup, les choses s'éclairent sur ce que peut être un langage qu'on comprend peut-être un peu moins facilement.
Oui, j'ai une très belle phrase d'un de mes chanteurs qui disait, parce que j'ai fait plein d'autres créations, des musiques très belles, d'autres plus improbables, mais quoi qu'il arrive, il me disait finalement que ça me plaise ou non, ce qui m'importe et ce qui me bouleverse, c'est de voir la musique en train de se faire. Et ça, je crois que c'est une belle illustration de ce que peut être la pratique, qu'elle soit amateur ou professionnelle.
C'est la joli. Même. Merci Agathe de nous donner toutes ces belles idées auxquelles réfléchir dès le matin. Et puis on va terminer avec votre dernier choix. Alors ça c'est plus, c'est un choix ancré dans la contemporanéité, mais une autre celle-là. C'est
un extrait de l'album Harvest.
C'est Neil Young tout seul, oui.
Voilà. Dans ma famille, vous avez compris, on faisait beaucoup de musique, mais il n'y avait ni télévision et pas grand-chose d'autre. Et j'avais récupéré, je ne sais pas comment, ce disque que j'écoutais presque en cachette. Non pas, il n'y avait aucune censure d'aucune manière, mais pour moi, c'était, j'avais l'impression que tout d'un coup, la modernité s'ouvrait à moi. Et je faisais pas d'anglais, je comprenais rien à ce que ça racontait, mais j'écoutais ça en boucle et chaque fois que je l'entends à nouveau, ça rappelle, c'est ce que fait la musique. C'est la personne qu'on était à ce moment-là, les émotions qu'on avait à ce moment-là.
My life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. We'll be right back. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you.
Old Man, chanté par Neil Young, un extrait de l'album Harvest. Et Agathe Bulas et moi-même étions dans un état un petit peu second. Voilà, à l'évocation de ses souvenirs.
Mes 15 ans.
Les 15 ans, oui. Merci beaucoup Agathe Bulas. Et
merci
puis donc, bien pour vous retrouver à travers Les Enfants de la Maîtrise, il suffit d'en suivre le calendrier. Notre archive du jour, c'était un enregistrement datant de 1988 du chœur de Radio France, dans un extrait du Roi 10 d'Édouard Lalo. Le chœur est accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France que dirigeait Armin Jordan. Aujourd'hui, dans le reportage, nous allons rencontrer quatre des violoncellistes de l'Orchestre National de France. Raphaël Perrault, Pierre Vavasseur, Oana Honck et Florent Carrière. La raison de cette curiosité, c'est la sortie d'un disque, à la fin de l'année dernière, que le pupitre de violoncelle a enregistré avec la violoncelliste Anne Gastinel à sa demande. Un disque à la couleur plutôt brésilienne. Ce n'est pas la première fois que l'Orchestre National de France collabore avec Anne Gastinel. Il y a eu un premier disque en 2007 et puis plus récemment, une tournée avec le National et Daniele Gatti. Alors aujourd'hui, genèse d'un disque avec les quatre violoncellistes en plein travail au Studio 104.
Thank you.
Alors Raphaël, présentez vos collègues.
Bon, alors donc là, on vient de répéter une milonga triste de Sébastien Piana avec Pierre Vavasseur, Oana Marchand. Non, tu vas me marier ou pas? Oana Onk et Florent Carrière et moi-même. Voilà.
Raphaël Perrault.
Voilà.
Donc Raphaël, là c'est quoi? Ça représente quelle proportion du pupitre des violoncelles de l'Orchestre national?
On va
de
dire
France
un tiers. On est 12. Enfin, logiquement, on est 13, mais on est en attente du 13e.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a un poste vacant qui devrait incessamment et sous peu être mis en concours pour qu'on puisse recruter cette 13e personne.
Qu'est-ce que ça signifie pour les uns et les autres un pupitre? Je pense que pour peut-être la personne non musicienne ou quelqu'un qui voit un orchestre comme ça de loin, est-ce que la notion de pupitre, ça recouvre quelque chose d'un peu particulier?
Oui, c'est assez clair pour moi. L'orchestre, pour moi, déjà, c'est une famille, une grande famille. Et pour moi, le pupitre, c'est notre famille privilégiée, c'est les plus proches. C'est-à-dire, c'est souvent ceux avec qui on a le plus de complicité.
Parce que vous parlez tous ce langage de l'instrument ou parce que vous êtes proches physiquement dans l'orchestre?
Parce qu'on est obligé de, pour avoir un son pupitre, comme on dit, pour avoir un son qui puisse s'accorder déjà entre nous, pour parler de nous, donc du pupitre de violoncelle, on est obligé de penser un peu pareil, d'avoir des musiques, des compositeurs, des œuvres qui se croisent et qui se mêlent pour essayer de faire quelque chose qui soit uni.
Voilà. Un son de pupitre, ça se fait avec le temps. C'est quand on intègre un pupitre, chacun a réussi le concours où il est rentré à l'orchestre. Il intègre un groupe, donc il y a déjà un son de groupe, il y a déjà quelque chose, il a juste à se fondre. Il y a une période probatoire d'essai, de stage, qui permet de s'assurer que la personne qu'on vient de recruter s'intègre bien dans le son, dans l'esprit du pupitre et qu'il n'y a pas de problème relationnel.
Voilà. Ni musical.
Ni musical, oui, essentiellement musical, mais...
Vous vous souvenez de cette entrée dans un orchestre? Vous étiez déjà dans un autre orchestre,
non,
Florent?
Non, je n'étais pas dans un autre orchestre, non. Mm-hmm. Et je remplaçais énormément à l'Orchestre Philharmonique, donc qui est un autre orchestre.
Orchestre frère.
Voilà, qui est en face à la radio. Et c'est vrai que quand je suis rentré au National, donc je connaissais vraiment très très bien ce pupitre de violoncelle, clairement, c'est différent. Impossible de dire c'est mieux, c'est pas mieux, c'est moins bien, c'est pas la question, mais c'est différent. Il y a un son du pupitre de violoncelle du Philhar, comme on dit, et au National, c'était différent. C'était un autre son, un autre pupitre, donc qui avait façonné au cours des années son son. Et puis, comme disait Raphaël, quand on rentre, on essaye déjà d'intégrer ce son-là et au mieux. Voilà.
Et ce son des différents pupitres d'un orchestre, c'est ce qui fait la couleur peut-être encore et les différences entre les orchestres un peu du monde entier, en tout cas.
Bien sûr. Ouais. Et ce qui forge la sonorité, c'est avant tout le répertoire. Ouais. C'est-à-dire qu'un orchestre qui va faire que du répertoire germanique, il va avoir une patte de son qui sera assez dense et riche. Ce qui fait la particularité des orchestres français, c'est le répertoire donc, de la musique française, qui est un répertoire quand même transparent dans la sonorité. Donc le répertoire, c'est aussi le directeur musical qui inculque ce répertoire, qui donne sa patte. Donc les directeurs musicaux, au fil des années, sont très importants sur la qualité et sur la sonorité de l'orchestre. C'est très clair que Mazur, par exemple, a vraiment apporté un plus à cet orchestre parce qu'il lui a donné une touche germanique, justement, qui lui manquait.
dans un pupitre de violoncelle, on parle de partiel, par exemple. Est-ce que c'est des choses... Vous jouez énormément, vous avez presque un concert par semaine. Est-ce qu'il y a des moments où le pupitre a le temps de se retrouver pour travailler des parties de partition un peu...
On ne fait pas ça très souvent.
Il n'y a peut-être pas besoin.
Il n'y a pas vraiment besoin. Mmh. C'est souvent des programmes, des œuvres bon, voilà, qu'on a jouées, rejouées. On en a fait une, par exemple, dernièrement, on a joué Guillaume Tell, donc où il y a quand même une partie avec des violoncelles, avec des parties séparées, donc qui sont... histoire justement que chacun trouve sa place et de mettre en valeur les interventions importantes. Mmh. Donc on a pris le temps de faire une partielle pour ce programme-là. Sinon, on ne fait pas ça très très souvent.
Mmh. J'ai une anecdote sur les partielles.
Raphaël Perrault.
Parce que quand je suis rentré au National, on est tout de suite parti en tournée. Je ne sais plus où c'était, en Europe, Italie, Allemagne. Enfin, on bougeait beaucoup. Et puis on jouait la cinquième de Prokofiev. Et dans la cinquième de Prokofiev, dans le mouvement Scherzo, il y a un passage très délicat pour les violoncelles. Et puis, bon, moi, c'était mes débuts avec l'orchestre. Je ne connaissais pas vraiment les coutumes, les usages. Et donc, je demande à l'alto solo, à Sabine Toutain, dis donc, tu crois que ce passage, quand même, est-ce que je peux faire une partielle? Est-ce que... Elle me dit, bah oui, vas-y, tu... Bon, donc du coup, j'ai organisé quelque chose juste avant un raccord. Et puis, en fait, l'hôtel était très loin de la salle. Ce jour-là, on ne pouvait pas aller avant le raccord répéter. Donc finalement, la partielle n'a pas eu lieu. Mais je dois dire que tout le pupitre, vu que j'avais prévenu de cette partielle 3 jours avant, tout le pupitre avait travaillé ce passage. Parce qu'ils se sont dit, il y a le nouveau chef de rayon qui arrive, il va regarder un peu ce qui se passe. Et du coup, il n'y avait plus besoin de faire partielle.
Il n'y avait plus besoin
de faire partielle parce que tout le monde avait bien ciblé le passage en question.
C'est bien des petits coups de stress comme ça, non?
Ouais.
Alors, en fait, je suis venue vous rencontrer aujourd'hui parce qu'il y a donc un événement discographique quand même qui vient de paraître. C'est la sortie de ce disque avec Anne Gastinel autour d'un répertoire très beau qui met très en valeur le violoncelle. Comment se fait-il? Comment vous êtes entrée dans ce projet? Qui vous l'a proposé? Pourquoi vous avez accepté de le faire?
C'est elle qui a amené ce projet. Elle voulait faire ça avec justement un pupitre de violoncelle. Il se trouve que à cette même période, elle a joué le concerto de Dvorak avec nous, et Daniel Legati. Et puis, bon, il se trouve aussi qu'on se connaît depuis. On a commencé quasiment ensemble le violoncelle. On a eu le même professeur à 5-6 ans. On était dans la salle de violoncelle, donc forcément, ça crée des liens.
Et d'une certaine façon, ça vous a permis de vous retrouver.
Encore.
Oui, bah oui, c'est le pupitre s'est mis à jouer. Ensemble.
Ce qu'on joue habituellement à l'orchestre. Donc ça renforce encore plus les liens et notre façon de jouer ensemble.
Oui, cette pratique de la musique de chambre, vous pensez que ça nourrit votre pratique de musicienne d'orchestre?
Forcément, oui.
Oui,
oui, d'ailleurs, certains d'entre nous en font plus que d'autres, du quatuor, du trio, ou, je ne sais pas, on a tous nos expériences à côté de l'orchestre.
C'est essentiel, moi je pense. C'est-à-dire, ça nous fait... On développe des choses complètement différentes en musique de chambre, au niveau de l'écoute, de tout ça. Pour moi, c'est... Tous les musiciens d'orchestre devraient faire de la musique de chambre à côté. On est bien meilleur à l'orchestre après. Voilà, nous, moi, je sais que le pupitre de violoncelle, par exemple, après ce projet, sonnait pour moi encore mieux.
Ah oui?
Bah, clairement. Clairement. C'était
lesquelles? Brasileiras de Villa-Lobos, la 1 et la 5, qui sont vraiment des pièces qui sont écrites pour 8 violoncelles. Voilà, ça c'est vraiment original. Le pupitre du National, d'ailleurs, l'avait enregistré, mais il y a très longtemps, c'était, il n'y a aucun de nous qui y participait, parce que c'était en 55, avec Villa-Lobos à la direction. Il dirigeait, là on l'a fait sans chef.
Et alors bon, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans l'orchestre, vous êtes un pupitre, il est vrai, mais quand même fondu dans une masse. Là, c'est une addition de solistes, en fait, un projet comme celui-là, un peu, non?
Si, si, oui. Chacun au sein du groupe a sa part de responsabilité. Et c'est avant tout le disque d'Anne et elle a joué magnifiquement aussi. Sandrine, c'était vraiment superbe.
C'est marrant parce que Sandrine Pio, c'est aussi une fille de la maison. Elle a fait la maîtrise de Radio France quand elle était petite. Mais oui! Elle a commencé dans la chanson en étant la maîtrise de Radio France, oui. Bon, alors, vous voulez bien me jouer quelque chose, là? C'est bien gentil, on a parlé, mais... Alors, c'est quoi, cette petite pièce?
On a répété, de manière un peu informelle, une milonga de Sébastien Piana.
Voilà. Merci.
Thank you.
Raphaël Perrault, c'est pas un répertoire sur lequel vous êtes finalement tellement... vous n'êtes pas très familier de ce répertoire, les violoncelles de l'Orchestre National de France.
Bah, disons que les Bacchanas, si. On connaît les Bacchanas, on a tous eu l'occasion de les jouer chacun de notre côté. Après, les pièces de Piazzolla, en fait, c'est un répertoire qu'on connaît pas et qu'on connaît quand même. Parce que...
On l'a dans l'oreille
Voilà, Oblivion, on a tous entendu... Café 1930, toutes ces mélodies un peu sud-américaines.
Un peu nostalgiques.
Ouais, on s'est tous retrouvés un soir dans un bar, entendre Oblivion chanter. Bon. Voilà, donc en fait, sans les connaître... en les jouant, ah c'est ça, voilà, bon, voilà. Donc, c'est des choses qui font partie un petit peu de notre inconscient musical.
Mmh. Alors cette initiative d'Anne Gastinel, qui est quand même l'autre, enfin, celle qui est à l'origine de cet enregistrement, ça vous a pas donné envie, à vous, le pupitre de violoncelle du National, de former une espèce d'ensemble, parce qu'il y a un répertoire, il y a un répertoire de transcription possible, non?
On a envie, alors après, faut trouver le temps. Comme disait Raphaël tout à l'heure, il a fallu que Thibaut, par exemple, ça lui a pris aussi beaucoup de temps pour faire les
transcriptions.
Donc il faut trouver quelqu'un qui fasse des arrangements, justement, pour 8 violoncelles. Mm-hmm. Mais je pense qu'on a tous dans l'idée de que ça soit un peu le point de départ d'une belle histoire. Oui. Mm-hmm.
Ouais, mais... Alors vous avez enregistré ici, j'imagine, à Radio France.
Oui, ouais. On a enregistré au studio 106.
Et studio donc, mythique, historique, de musique de chambre.
Superbe studio, et avec un travail formidable de Daniel Zallet.
Qui est musicien metteur en ondes.
Voilà, ouais. À Radio France, et qui a bien travaillé. Je crois que le courant est bien passé avec Anne. Et bien, le résultat, c'est...
100 ans.
100 ans, oui, ça fait sentir. Ouais.
Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup. Là, c'était une super production pour France Musique au Studio 104, qui est pas mal dans le genre aussi. Ouais, c'est agréable.
C'était improvisé, c'était parfait.
Ouais, c'est pas mal, ça sonne bien. Hein.
Ouais, c'est bien.
Merci beaucoup à tous les quatre.
Merci Dominique.
À écouter avec délice America, un disque aux couleurs de l'Amérique du Sud qui réunit la violoncelliste Anne Gastinel, la soprano Sandrine Piau, au violoncelliste de l'Orchestre National de France. Un disque naïf. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Quand nous irons en vacances, la 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 la, nous ferons tous connaissance, la 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 la, avec les prés, les bois de la douce île de France, où les rives fleurissent au soleil du midi. Si nous allons en Bretagne, la 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 la, à nous la lande, la campagne, la 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 la, notre ami l'alouette nous dira, mes amis, ayez tous le cœur en fête, les apprentis.
La Maison de la Radio propose, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 février, des activités pour les enfants, mais pas seulement, des ateliers liés au micro, des parcours de découverte de la maison ou encore des ateliers de fiction radiophonique. En fait, des activités à destination de tous ceux qui sont encore en vacances.
Et puisqu'on écoute Charles Trenet et que la thématique de cette chronique ce matin, c'est donc les vacances, eh bien cela m'a fait penser à la musique de Roger Roger. Roger Roger, qui, avec son orchestre, accompagna Charles Trenet, Édith Piaf ou Maurice Chevalier. Mais il a surtout été un compositeur très actif pour la télévision et pour la radio. Il composait ce qu'on appelle de la musique légère. Et oui, à l'époque, à Radio France, dans les années 60, il y avait un service de musique légère.
Et oui.
Et donc, il s'agissait tout autant d'œuvres diffusées pendant les émissions de France Musique en particulier, que de génériques ou de ce qui relève de l'habillage d'antenne, comme on dit. Roger Roger, son vrai prénom et son vrai nom. Et je vous parlais de vacances, on écoute Téléski de Roger Roger, une musique qui probablement a illustré quelques documentaires consacrés au sport d'hiver. We'll be right back.
Ça ressemble un petit peu au vol du Bourdon, ce téléski de Roger Roger, interprété par le Métropole Orchestra.
Et je reste dans le thème, mais en allant en Norvège. En 1970, le compositeur Gert Feit est victime d'un incendie. Sa maison est emportée presque entièrement dans les flammes, et donc presque toute son œuvre. Là, dans cette maison de Lardanger, sublime région de Norvège, il avait beaucoup composé, notamment des pièces d'après des chansons populaires de la région. Un grand nombre de ces pièces ont disparu, mais il reste la suite numéro 2, opus 151, d'où est issue cette mélodie, la fille de la montagne descendant à ski. Et voilà l'histoire, la fille de la montagne crânant, slalom avec assurance, et évidemment, elle fait une mauvaise chute et se meurtrit le coccyx, pour ne pas dire autre chose.
C'est le Royal Norwegian Navy Band dirigé par Bjart Engeset qui interprétait cette fille de la montagne qui descendait à ski.
Alors faire du ski en Roumanie, ça doit être pas mal non plus. La station la plus célèbre se trouve à Poiana Brasov. Non seulement les prix y sont les plus bas de toute l'Europe, mais en plus elle possède une attraction d'envergure à quelques kilomètres de là. Le fameux château de Dracula. Alors je ne sais pas si Enesco a songé au sport d'hiver en composant sa suite villageoise numéro 3, mais c'est bien une atmosphère de jeu, de détente et de plein air qu'il décrit dans le deuxième mouvement. Composé en 1938, il a alors 57 ans. C'est certainement un souvenir de vacances de son enfance roumaine, gamin en plein air.
Thank you.
L'orchestre de la Radio Nationale de Roumanie interprétait sous la baguette d'Oria Andreescu cette suite numéro 3 en ré majeur opus 27 de Georges Enescu. C'était les gamins en plein air.
Et je rappelle que pour ceux nombreux qui n'iront pas s'adonner à la glisse en montagne, parisiens, toulousains, limougeaux, clermontois, pictaviens, bordelais ou lyonnais de passage à Paris, vous pouvez retrouver toutes les activités proposées par la Maison de la Radio pour le jeune et pour le moins jeune public sur le site maisondelaradio.fr. Puis j'en profite pour souhaiter une bonne reprise aux Aixois, Rennais, Amiénois ou aux Rouennais notamment. Bref, à tous ceux qui, dès lundi, retrouvent leur table et leur crayon.
Merci Marie Fauché. Agenda. Mardi 23 février, venez assister à l'enregistrement des Mardis de la musique ancienne. L'émission d'Edouard Fauré-Colfuti qui recevra tout d'abord l'ensemble d'Hydro qui nous fera découvrir les concertis d'Antonio Maria Montanari. Puis l'ensemble Sitfast dans un programme anglais Locke et Purcell. C'est au studio 106 de 20h à 22h30 et c'est gratuit. Et puis les conférences sur musique et cerveau reprennent à Radio France. La première aura lieu samedi 5 mars de 9h à 17h et traitera des émotions en musique. Une journée pilotée par Hervé Platel qui recevra l'ethnomusicologue Catel Morand, le chercheur Emmanuel Bigan et le musicien Marc-Olivier Denat. C'est au studio 105 de la Maison de la Radio et sur le site Musique et Santé pour s'inscrire.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Je ne suis pas bien sûr ce matin, Jean-Yves, de connaître vos intentions.
Mes intentions sont pures.
Rassurez-vous. J'espère bien.
J'aimerais bien ce matin que vous soyez une petite fille. Une petite fille des années 30, une petite fille sage, avec les cheveux bien lissés, avec un joli col tarte, etc. Et là, je vous dirais, alors Dominique, tu as été bien sage cette semaine ?
Oui, papa.
Eh bien alors, nous allons t'offrir ta récompense. Allume la TSF, écoute ton émission favorite, celle consacrée à l'histoire des plantes. Eh oui, car figurez-vous, il y avait des émissions de radio dans lesquelles on pouvait échanger des programmes avec d'autres radios. Par exemple, cette émission des plantes qui s'appelait Plants in the Underworld vient d'Angleterre, mais elle est dite en français. Et c'était des émissions qui étaient destinées à l'éducation du jeune public. Il y avait déjà la possibilité d'avoir une collaboration internationale. Alors, Dominique, tu as allumé la radio ?
Oui, papa.
On écoute.
Presque imaginer que nous avons devant nous un paysage qu'un voyageur à la Lune trouve en descendant de son projectile. Ou que cette vue se présente aux yeux d'une sorcière qui, fatiguée après une séance mystérieuse, se repose à l'entrée de sa caverne ténébreuse. Mais ce n'est que des spectacles que la nature, artiste parfois grotesque, nous présente. Je vais vous dire comment elle produit de tels effets. Et ce récit est l'histoire de la famille du fungus.
Alors, l'histoire de la famille du fungus, ça vous passionne ?
C'est passionnant, le fungus. Merci beaucoup, papa. Je suis beaucoup plus intelligente.
Ah bon?
Alors, Plants of the Underworld, qui est quand même surprenant, ce sont ces émissions dites par des Anglais, en français.
En français, destinées.
Sur le fungus.
Voilà, qui nous apprend, en gros, la vie, la naissance et la reproduction des champignons. C'est assez extravagant. Vous pouvez noter aussi l'importance de la musique qui dramatise l'ensemble comme si c'était une épopée wagnérienne, quasiment.
Un petit peu. C'est voilà. Un disque Columbia Graphophone. Voilà. Pro Patria. Londres, 1930.
Alors, ce qui est amusant, c'est que ce disque-là mesure environ 45 cm de diamètre et tourne à la vitesse vertigineuse de 33 tours à la minute. Nous en sommes au tout début et tous les disques que nous allons écouter aujourd'hui nous proposent une nouvelle vitesse de façon à gagner de la place. Le disque a toujours un sillon qui a le profil du 78 tours, donc il faut une pointe spéciale pour le lire, mais la vitesse est celle qui sera adoptée après les années 50 pour les disques commerciaux. Alors évidemment, je ne vais pas vous passer l'intégralité de l'histoire sur le champignon, même
j'aurais
si ma petite Dominique,
savoir
ça
ce
vous
lui
passionne.
Arrive.
Eh bien, il va pousser d'abord à l'ombre, puis à la lumière, etc. Nous y reviendrons. Il y a aussi des tentatives d'ordre, si je puis dire, de mise en ordre assez intelligente, qui ont été réalisées par des radios californiennes, qui ont proposé des Standard Program Libraries, c'est-à-dire des programmes préparés sur des grands disques, pareil, d'environ 50 cm de diamètre, qui tournent à 33 tours minute. Les premiers sont apparus à la fin des années 30, enfin 1934 pour être très précis, utilisent le standard du 33 tours, et ce sont des plages isolées. Et donc, vous allez avoir le disque consacré à la musique légère, le disque consacré au jazz, à la variété, etc., etc. Donc, de ce programme, je vous propose d'abord d'écouter une valse d'Emil Waldteufel, enregistrée en 1934 par le Viennese Concert Orchestra. Et c'est magnifique, Dominique, écoute bien.
Monsieur Jean-Yves Pat, comme c'est bien enregistré.
Oui, mon petit. Alors, oui, c'est enregistré. En 1934, les grands fameux programmes, le Standard Program Library, bénéficiaient des meilleures prises, ou parfois avaient accès au master, qui permettait de graver un disque original d'excellente qualité, et même parfois avaient accès à des prises non commercialisées. Le même morceau, mais enregistré en mieux, si je puis dire, pour ses préparatifs de programme de radio. Alors j'en veux pour preuve le morceau qui suit, qui est du jazz, qui est Silvering in the Moonlight.
Ok, excellent.
Silver Wings of the Moonlight.
Of the Moonlight. Vous parlez mieux anglais que moi. Donc, Silver Wings of the Moonlight, par Joe Rashman. Alors, le paillasse du piano, je ne sais pas pourquoi.
Le paillasse du peut-être piano.
Peut-être qu'il riait, il se grimait la face, je ne sais pas. Et c'est chanté par Maureen O'Connor. Et vous allez voir, c'est un son absolument éblouissant pour 1946.
Drôlement bien ce disque Standard Program Library Hollywood 1946.
Et il ne manque plus que le stéréophonie.
Oui, c'est vrai.
J'en profite parce que je parle si bien anglais.
Donc oui, c'est de la mono encore.
C'est encore de la mono, mais la gravure est excellente.
Excellente.
Et la qualité même de la prise de son est supérieure aux 78 tours du commerce, il faut bien le reconnaître. Alors maintenant, nous allons reprendre nos ébats intellectuels.
Oui,
et nous
papa.
Allons savoir ce qu'il est advenu de cette famille de champignons. Fungus.
Parmi les cellules innombrables qu'ils produisent, il y en a qui, cachés sous un abri secret, envoient vers le soleil une fleur pâle pour nous rappeler que sous terre, il y a une vie que nous voyons jamais.
C'est fini, il n'y a plus de champignons.
Non, il n'y a plus de champignons, ça y est, tout ça c'est parti, les petites spores se sont semées au vent. Voici une catastrophe, mais le cycle de la vie reprendra.
À la semaine prochaine, joyeux Pâques.
Avec plaisir, Dominique.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Alain Marc Prouveau de Bonneville.
Thank you.
La salle de séjour était flanquée d'une sorte de souillarde qui comportait un énorme évier de grès dans lequel on déposait, chaque fin de journée avec précaution, une baignoire juste sous le col de cygne du chat photo et mori à gaz de ville en forme de tuyau de poêle émaillé blanc qui desservait la cuisine. Une fois cette espèce de saumonnière grand modèle emplie d'eau, je m'y plongeais avec délice. J'aurais presque honte d'avouer les sortes d'extases que j'y connus. Extase musicale, s'entend. M'arrivait de la pièce voisine, où le plus souvent ma mère repassait ou cousait, le son de la radio, Luxembourg pour ne pas la nommer, qui n'hésitait pas à utiliser tout le répertoire classique à titre d'indicatif des différentes séquences de son passe-temps des dames et des demoiselles. Un passe-temps qui occupait la presque totalité de l'après-midi. Or, les feuilletons radiophoniques qui s'y succédaient, à l'instar de 42 rue Courte, Irène, Dolly de Forêt ou la seconde des romances pour violon et orchestre de Beethoven, ou encore Léo de Hurlevent, j'en oublie, tous, absolument tous, se prévalaient d'un indicatif classique dont je me régalais par avance. Plus tard, et déjà mécréant, je rentrais au pas de course du catéchisme pour, juste après le journal de Mickey, du jeudi matin, savourer l'enthousiasme du délirant final du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, qui clôturait en apothéose le magazine agricole. Plus tard encore, il y eut l'indicatif de Télélil, le Touba Mirum du Requiem de Berlioz, tandis que Ralingan, en plein ouragan au sommet du Beffroi de Lille, s'élevaient majestueuses les glorieuses couleurs à la fleur de lys des Flandres. Puis enfin, l'entrée des dieux du Carnaval romain, de ce même Hector, lorsque nous fûmes définitivement voués à la RTF de Paris. Toutefois, je n'ai pas honte à l'avouer. Mon initiation musicale est passée d'abord et avant tout par cette baignoire. Et mon inconditionnalité d'auditeur de France Musique, encore France 4, jusqu'au courant des 60s, époque de mon premier transistor, trouve dans ce zinc son origine. Depuis, je ne crois pas avoir passé la moindre journée sans un bain musical quasi permanent. De 7h à minuit et parfois même, accompagnant mes insomnies de vieillard de plus en plus fréquentes jusqu'à France Musique la nuit. Tout cela, où que je me trouve, est souvent aux grand dam des gens qui, à un moment ou l'autre, ont partagé mon existence. Pour illustrer le souvenir musical d'Alain Marc Prouveau de Bonneville, nous avons écouté Les Sœurs Labec dans le Dolly de Forêt, puis Nemeyarvi à la tête de l'orchestre philharmonique de Bergen dans le dernier mouvement du Carnaval des animaux. Alors j'attends avec impatience vos récits qui se souviennent de moments de musique. N'hésitez plus, prenez votre plus belle plume, activez votre clavier et racontez-moi une histoire que je me ferai un plaisir de lire à ce micro. Question de cœur avec Sophie Jeannin. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour Dominique.
Alors comme certains de nos auditeurs l'ont entendu dans l'émission de Karine Le Bail à pleine voix, dans laquelle vous nous avez fait la démonstration d'un échauffement, je voulais que dans Fabrication Maison, on revienne un peu plus en détail sur certains des points qui m'ont moi particulièrement intéressée, si vous en êtes d'accord.
Je suis d'accord.
Et la première chose en effet qui m'avait frappée, c'était cette histoire de posture. C'est-à-dire que la posture, l'ensemble du corps est finalement important pour le chant. Ça ne mobilise pas qu'un petit coin de l'organisme. Alors qu'est-ce que vous entendez par la posture ?
On travaille beaucoup sur la posture parce que c'est vrai que le chant, l'instrument, c'est tout le corps. Donc déjà, on essaye de construire une façon pour l'élève de se mettre dans une posture idéale. Et pour nous, ça veut dire que on peut avoir une expansion des côtes sans être gêné, c'est-à-dire que pour que la respiration soit fluide, on essaye également d'avoir une posture qui ne fatigue pas le chanteur, c'est-à-dire les deux pieds bien au sol, au parallèle, avec des points d'appui qui sont à la fois sur le devant du pied et dans le talon. On ne se tient pas cambré pour pas se faire mal au dos ou au trapèze, ou et avoir une position du bassin qui est vraiment un prolongement de la colonne vertébrale. On essaye aussi de travailler sur le fait de pas avoir les genoux verrouillés, et ça c'est quelque chose qui devient très pertinent à la maîtrise. On a beaucoup de filles par exemple qui ont fait beaucoup de gymnastique quand elles étaient petites, ou de la danse, où on travaille sur des postures vraiment très très droites. Pour le chant, ça nous sert d'avoir une flexibilité dans les genoux, même si bien évidemment on ne chante pas les genoux pliés.
Et puis, oui, mais je vous ai vu faire des exercices d'échauffement où les jeunes chantaient en se pliant.
Oui, parce que après il y a toute une connexion à faire avec différents muscles, avec, donc c'est important aussi pour nous de que l'élève prenne conscience de ça, et aussi de éveiller le corps en quelque sorte en chantant. Et puis pour le haut du corps, c'est vrai qu'on travaille aussi sur la position des épaules, qu'elles soient bien basses, parce qu'elles ont tendance à remonter quand on est un peu fatigué. Même vous maintenant, Dominique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes en train de faire des petits, vous faire des petits exercices. Voilà, quand on commence à être conscient de cela, on commence à faire des petites rectifications. Je simplifie. Hein. Et si on parle de la tête, on essaye aussi d'avoir un cou qui est à la fois long mais pas tendu. C'est-à-dire que on sent que la tête, elle flotte au-dessus des épaules. Et vous savez que quand on est attentif, quand on veut bien faire, on a une petite tendance à vouloir avancer sa tête, avancer le menton. Donc on essaye aussi de travailler contre ça, c'est-à-dire que l'élève essaye de rester dans l'axe où on est à la fois droit, tonique, mais détendu pour pouvoir chanter.
Waouh, ça en fait des choses à penser.
Mais ça fait beaucoup de choses, et puis c'est pour ça qu'on essaye de l'installer aussi de façon ludique, et que ça devient petit à petit des réflexes.
Et c'est la même chose pour les adultes.
C'est la même chose pour les adultes.
Merci Sophie Janin.
Merci Dominique. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made. Love was made. Love was made for me and you.
Pour illustrer Question de cœur, aujourd'hui, nous écoutions un extrait du concert que le chœur de jeunes filles de la maîtrise donnait dimanche dernier à l'auditorium pour la Saint-Valentin avec Matt Ford et son trio de jazz. À la direction, Sophie Janin. Enfin, il y a aujourd'hui un disque à gagner, l'un de ceux de cette très belle collection Okora, qui permet des voyages autour du monde rien qu'avec l'oreille. Aujourd'hui, c'est un disque qui nous entraîne dans les pays du Nord, la Suède et la Norvège, à la découverte de musiques de fête, polska, suédoise, springar et hallig norvégien, animés par le violon et la vielle à archet. C'est donc un disque Okora Radio France que vous pouvez gagner en vous inscrivant à la page de Fabrication Maison, sur le site de France Musique, francemusique.fr. C'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Frédéric Potry et de Cécile Gissot. Très bon week-end à tous!